Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipée sauvage du sourire, de l'intelligence, de la malice. Waouh, le cocktail gagnant de l'équipée sauvage. Alors rendez-vous demain à 16h. Salut Mathieu.
Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir, toujours à distance mais toujours bien accompagné par toute la rédaction d'Europe 1, mobilisée plus que jamais. À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron en visite dans une usine de masques près d'Angers. Des annonces, de l'argent et une promesse, rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Europe 1 était sur place, aux côtés du chef de l'État. On en parle dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, un consortium d'industriels va fabriquer 10 000 respirateurs d'ici la mi-mai. Parmi eux, le constructeur PSA, son directeur industriel Yann Vincent et mon invité dans 20 minutes. Et puis à 19h10, l'interview d'Aurélie Herbemont, produire davantage en France, souveraineté. Est-ce un changement de cap économique et politique pour Emmanuel Macron? L'économiste Philippe Aguillon répondra à ces questions. Voilà pour le programme de ce mardi de soir. On est là avec plaisir pour vous accompagner tout près de vous jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne.
Le retour du Made in France. Emmanuel Macron lance l'effort de guerre dans une usine de masques. Il débloque 4 milliards d'euros pour le matériel et les médicaments. Les industriels fabriqueront aussi des respirateurs.
Et le récit de Jean-Rémy Baudot qui a suivi cette visite de l'intérieur.
Troisième semaine de confinement et toujours des drames. Le virus fait son chemin jusque dans les EHPAD. 15 morts dans un établissement de Mougins.
Et puis, dans ce journal aussi, les violences conjugales en plein confinement. Les pharmaciens appelés à recueillir les appels au secours. Et ça a marché.
Elle a été extirpée d'une situation qui était dangereuse pour elle. Cette mission, cette nouvelle mission, si on peut dire, c'est de l'aide aux personnes. Évidemment, on est plutôt fiers d'y participer.
Un témoignage exclusif à Nancy. Et puis, lui a disparu dans son sommeil et ce n'est pas le virus qui l'a emporté.
Je respecte toutes les croyances dans tous les dieux. Et je trouve que chacun a le droit de s'exprimer. Mais je pense que croire au miracle, c'est faire honte à la religion.
Et une voix, une gouaille, Pierre Bénichou, ancien directeur du Nouvel Obs, lui qui anima aussi les après-midi d'Europe 1 aux côtés de Laurent Ruquier, est mort la nuit dernière. La Bourse de Paris, à nouveau en hausse ce soir, plus 0,4% à 4396 points.
Et Anissa, bonsoir à vous du côté du ciel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Demain, c'est une très belle journée au programme. Il va faire beau quasiment partout, sans vent et sans nuages. Ah, sauf peut-être sur le sud-est, mais je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Voilà ce qu'a promis Emmanuel Macron en visitant une usine de masques aujourd'hui près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Le monde d'après, c'est la reconquête de l'indépendance française. En clair, ne plus dépendre de la Chine. L'effort de guerre Made in France est donc lancé. Jean-Rémy Baudou, vous avez suivi de l'intérieur cette visite. L'objectif, c'est de produire dès le mois d'avril 40 millions de masques par mois en France.
Oui, et pour obtenir ce chiffre, il faut monter en cadence. L'usine d'Angers tourne désormais 24 heures sur 24. Ça n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron y est venu marteler son nouveau mot-clé, souveraineté.
Il nous faut produire davantage en France. Cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne.
Cette idée dans cette usine, elle est mise en application depuis plusieurs années. Un responsable en témoigne.
Actuellement, nos masques, on est à peu près à 70% de nos composants qui viennent de France.
Même les machines ici sont made in France, un effort conséquent. Elles coûtent 10 fois plus cher que les machines chinoises, mais elles produisent plus et mieux. C'est donc rentable, selon le patron de l'entreprise.
L'investissement est lourd, il est payant dans le temps. La proximité est quelque chose qu'on souhaite encore accentuer.
Malgré les embauches pour produire plus, certains salariés ressentent déjà de la fatigue. Et cet employé demande au président que les Français saluent aussi leurs efforts.
À 20h, tous les soirs, on applaudit. Je voudrais profiter de votre présence pour que, dès maintenant, on applaudisse, en fin de compte, tous les citoyens qui font l'effort.
Donc cette France unie, on va l'applaudir ensemble. Vous avez parfaitement raison, merci.
Des applaudissements pour le Made in France, mais aussi de l'amertume. Observant la visite du président, une des employées avec qui j'ai pu discuter m'a confié « Ils me font marrer, ils sont bien contents de nous trouver maintenant. Avant, tout le monde achetait en Chine. »
Jean-Rémy Baudot, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Maine-et-Loire.
Et on y reviendra avec les grandes voix, bien entendu, à 18h30. Venons-en justement à ces annonces avec vous, Aurélien Fleureau. La promesse, c'est de revenir à une production française de masques et aussi de respirateurs.
Oui, il y a d'abord les masques. Objectif annoncé par Emmanuel Macron, 10 millions de masques fabriqués en France chaque semaine d'ici la fin avril. Une production locale qui est en train de tripler, même si elle ne répondra pas entièrement aux besoins du personnel soignant et des EHPAD, hein, qui sont évalués à 40 millions par semaine. C'est pour ça que pour l'instant, les commandes venues de Chine restent cruciales. Et puis l'autre annonce majeure de la journée concerne les respirateurs. C'est évidemment prioritaire en ce moment. Et là, ce sont 10 000 respirateurs qui seront fabriqués par un consortium mené par Air Liquide, seul fabricant jusqu'ici en France. Le groupe sera aidé par PSA, Valeo, Schneider Electric. Chacune de ces entreprises va apporter son savoir-faire pour relever ce défi au plus vite. Chez PSA, par exemple, c'est un atelier qui doit ouvrir le plus rapidement possible sur le site de Poissy dans les Yvelines, où il faudra assembler les 300 composants qui permettent de réaliser un respirateur tout en coordonnant le travail d'une centaine de sous-traitants. Au total, pour les médicaments, les respirateurs et les masques, le chef de l'État a annoncé aujourd'hui une dotation spécifique de 4 milliards d'euros.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, des annonces qui interviennent au moment où 5 associations de patients et de soignants, notamment le collectif Interurgence, ont saisi le Conseil d'État, lui demandant de contraindre le gouvernement à aller jusqu'à la réquisition d'usines pour produire ces matériels qui font défaut.
Et la mobilisation et l'opérationnel, donc notamment de PSA. On en parle avec mon invité à 18h20, Yann Vincent, directeur industriel de PSA, alors que l'entreprise donc entreprend la production de ses respirateurs.
Et j'ajoute que pendant ce temps, les trafics continuent. La police a saisi 32 000 masques dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis, commandé illégalement en Chine. Les deux destinataires ont été placés en garde à vue.
Et pour aider les soignants, des masques de plongée pourraient être utilisés. Ceux de la marque Decathlon, qui recouvrent l'ensemble du visage, sont désormais retirés de la vente pour être offerts aux hôpitaux. On en parle dans votre journal, Sébastien, à 19h. Hein.
Des hôpitaux extrêmement proches de la saturation en Île-de-France, notamment avec presque 870 patients en réanimation en région parisienne. La PHP annonce que 38 seront transférés demain dans une autre région par un nouveau TGV médicalisé. Comment protéger les plus fragiles, les plus âgés qui vivent en EHPAD? Malgré toutes les précautions et malgré cette terrible interdiction de toute visite des familles, eh bien le virus parvient malgré tout à faire son chemin jusque dans ces établissements. C'est le cas à Mougins, dans le Var. Frédéric Michel, on l'apprend aujourd'hui, 15 résidents d'un EHPAD sont morts du coronavirus.
Effectivement, 15 résidents diagnostiqués positifs au Covid-19, 15 morts en 15 jours. La maison de retraite La Riviera a été douloureusement touchée par l'épidémie. Les victimes ont toutes plus de 75 ans et dès les premiers jours de la crise en France, l'établissement a dû faire face à la multiplication des cas. Richard Galli est le maire de Mougins.
Ben, le confinement avait été respecté. Malgré tout, ce sont des personnes qui sont vulnérables, fragiles. Et lorsque le Covid-19 s'introduit dans un établissement comme ça, où on a une centaine de personnes regroupées, il fait des ravages terribles, quoi, terribles. Donc il y a eu 4 ou 5 morts dans la première semaine. Ce qui manquait au départ, c'était des protections et surtout des masques. Donc je suis intervenu auprès de la préfecture et de l'ARS. Donc ça a été obtenu d'ailleurs assez rapidement, en 3 jours ou 4 jours.
Et le maire de Mougins, qui est aussi docteur généraliste, réclame désormais que le personnel et les résidents soient tous dépistés. Richard Galli pousse aussi un coup de gueule. Laissez-nous prescrire des antiviraux, la chloroquine notamment. Il souhaite que l'extension de la prescription soit étendue à tous les généralistes qui ont fait les études, hein, et qui prennent chaque jour, dit-il, leur responsabilité dans leur cabinet en prescrivant des médicaments à leurs patients. Cela aurait peut-être pu éviter des morts dans cet EHPAD. Tous les pensionnaires sont actuellement confinés dans leur chambre et le personnel qui fait un travail extraordinaire, souligne le groupe Corian qui gère l'établissement. Ce personnel est désormais épaulé par des équipes de l'hôpital de Grasse, des équipes d'hospitalisation à domicile, d'hygiène mobile et de gériatrie.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur, et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour répondre à vos questions. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
La sécurité dans les EHPAD, hein, qui est préoccupante, on voit que l'interdiction des visites ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confiner aussi le personnel, comme on le voit dans certains établissements?
Confiner le personnel était une solution intéressante avant que l'épidémie ne s'installe au sein même de l'EHPAD, puisque lorsque vous avez des résidents qui sont contaminés par des visiteurs qui peuvent être asymptomatiques, on pouvait déclencher des épidémies. Le problème, c'est que le virus désormais circule dans les EHPAD et il faut pouvoir distinguer les résidents malades des non malades, et pour ça il faut dépister les gens, leur faire faire des tests au personnel soignant de façon régulière et répétée, et puis aussi les résidents, même s'ils sont asymptomatiques, de façon à faire deux unités unités. Une unité de résidents Covid, malades, qu'on isole, et une unité de résidents non Covid qu'il faut mettre de côté pour éviter ce qu'on appelle les contaminations croisées. N'oubliez pas, enfin, que les tests ne sont pas fiables à 100%. On estime qu'ils seraient fiables environ à 70%. Et donc, il y a malgré tout un risque de mettre des gens étiquetés non malades, alors qu'en fait, ils sont porteurs de l'épidémie. Donc, je pense que le problème est un peu plus complexe que ce qu'on pense.
Ah oui, docteur Jimmy Mohamed, merci beaucoup. Merci d'être avec nous chaque soir pour nous éclairer. Toutes les questions sur le hashtag Radio Ouverte. Et on vous retrouve évidemment dans l'émission Santé sans rendez-vous à 15h tous les jours sur Europe 1.
Il est 18h09 sur Europe 1. La suite du journal, Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est une image qui va marquer les pistes d'Orly désertes, les terminaux totalement vidés de tout passager pour une durée indéterminée, du jamais vu. Depuis l'après-guerre, l'aéroport parisien va fermer totalement ce soir en raison de l'effondrement du trafic aérien. On y reviendra dans le journal de 19h.
Et autre annonce du jour, la prime Macron, prime défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés, en particulier les salariés les plus exposés. Cette prime sera autorisée jusqu'à 2000 euros dans les entreprises ayant un accord d'intéressement.
Et on en vient à ces violences conjugales en recrudescence depuis le début du confinement. Et pour aider les victimes qui ne peuvent pas toujours téléphoner à la police ou au numéro dédié, le 3919, un nouveau dispositif a été mis en place. Les pharmaciens peuvent recevoir les appels au secours pour être plus discrets. C'est ce qui s'est passé ce week-end à Nancy. Marion Dubreuil, et le pharmacien que vous avez pu joindre a pu mettre une jeune femme à l'abri.
Oui, c'est dans sa pharmacie que Floriane, 22 ans, est venue appeler à l'aide samedi dernier. Son conjoint venait de la menacer de mort avec un couteau. Nous ne donnerons pas le nom de l'officine. Le gérant préfère conserver l'anonymat pour protéger sa cliente et éviter des représailles.
Elle a été extirpée d'une situation qui était dangereuse pour elle. Cette mission, cette nouvelle mission, si on peut dire, c'est de l'aide aux personnes. Évidemment, on est plutôt fiers d'y participer. Le sentiment d'accomplir ce pourquoi on est là, c'est-à-dire aider les populations. Il y a une relation en tant que professionnel de santé. Ce sont des gens qu'on connaît déjà. C'est la mise en protection des personnes au plus proche, en attendant d'avertir les services de police qui sont plus compétents.
La police a rapidement pris en charge Floriane, d'abord dans la pharmacie, puis au commissariat. Depuis, son conjoint a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de la contacter jusqu'à son procès le 5 juin prochain.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. L'Italie observe une minute de silence à la mémoire de ses victimes. 11 500 morts du Covid-19. Le confinement est prolongé au moins jusqu'à Pâques. Le pic est attendu encore dans 7 à 10 jours en Italie. En Belgique, on a appris aujourd'hui la mort d'une enfant de 12 ans à peine. Et puis chez nos voisins espagnols, situation terrible. Nouveau record, 849 morts en 24 heures. Record aussi au Royaume-Uni, 381 morts ces dernières 24 heures.
Ah, sa voix, cette gouaille, on ne l'oubliera jamais. Il savait mettre dans la bande de Laurent Ruquier pendant des années toute cette humeur et toute cette causticité ici sur Europe 1. Également, Pierre Bénichoux est mort la nuit dernière.
Il avait 82 ans, il s'est éteint dans son sommeil. Son fils précise que cela n'a rien à voir avec le coronavirus. Nicolas Caro, de nombreuses personnalités saluent ce soir son humour et son esprit de camaraderie.
Oui, Philippe Labro, par exemple, a rappelé sa culture insondable, sa grande intelligence qu'il dissimulait derrière le rire et son culte de l'amitié. Avalanche de réactions cet après-midi et les hommages se ressemblent. Ils rappellent tous la capacité de Pierre Bénichoux à ne jamais se prendre au sérieux, même s'il en aurait eu les moyens. Il est né en 1938 à Oran, il fait ses études à Paris et commence sa carrière comme stagiaire à François. Il rejoint en 68 le Nouvel Observateur, dont il devient rédacteur en chef, puis directeur délégué. Il se fait connaître du grand public à partir des années 90 à la radio, aux Grosses Têtes d'abord, puis dans l'émission de Laurent Ruquier, On va se gêner sur Europe 1, où il n'en fallait pas beaucoup pour qu'il se mette à chanter et à rire.
On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle.
C'est très 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 gay.
Voilà, Pierre Bénichoux dans ses œuvres, c'était en 2008. Il était par ailleurs fou de poésie, mais il écrivait peu. Il a quand même publié un livre il y a 3 ans qui rassemblait les notices nécrologiques qu'il rédigeait pour le Nouvel Obs. Son titre, Les absents levaient le doigt, même la mort, il ne la prenait pas au sérieux.
Voilà, Pierre Bénichoux dans ses œuvres. C'est vrai qu'il chantait souvent dans l'émission de Laurent Ruquier. Merci Ruquier. Nicolas Caro.
Ouais, cette voix, ce timbre et évidemment cet humour, ce second degré qu'on n'oubliera pas. On le voit depuis le début du confinement. D'ailleurs, Sébastien Krebs, les artistes se mobilisent et en voilà un qu'on a peu l'habitude d'entendre, surtout dans les médias traditionnels. C'est le rappeur Booba. Il était sur Europe 1, ce matin.
Oui, invité de la matinale de Mathieu Béliard, interview exclusive et donc très rare, avec un message de sensibilisation, Angèle Châtelier, à destination de son public. Et c'est important parce que c'est un public que les médias plus classiques ont plus de mal à toucher.
Booba est l'un des rappeurs les plus écoutés de France, à la réputation sulfureuse aussi, comme avec sa bagarre à Orly qui avait fait la une des médias. Mais depuis la crise sanitaire, il est inquiet. Pour lui, confiné à Miami, et pour sa famille à Paris et au Sénégal. Du coup, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il multiplie les messages et les vidéos de mise en garde à ses 6 millions d'abonnés.
Mon frérot, ouais. On sait comment là, on est en période de corona. Comment ça se fait, t'es dehors comme ça?
J'arrive pas à rester chez moi, je peux pas, impossible, je m'ennuie.
Toi, tu peux être un porteur sain et tu rentres chez toi, tu le donnes à tes parents et ça peut être dangereux. Est-ce que t'es conscient de ça?
Ce matin sur Europe 1, depuis Miami, Booba a expliqué à Mathieu Béliard sa démarche citoyenne, n'hésitant pas tout de même à tacler les artistes qui chantent depuis leur chambre.
J'ai la chance d'avoir une audience, donc j'en profite pour faire passer le message. Chanter, c'est bien, mais sauver des vies, c'est mieux.
Et pour ça, Booba est allé jusqu'à inviter un ancien grand flic dans sa vidéo, Bernard Squarcini, ancien patron du grand contre-espionnage, qui a expliqué sur Europe 1 apprécier la démarche du rappeur, beaucoup écouté par un public et dans des territoires où, d'après lui, la loi n'est pas toujours respectée.
Voilà, duo assez improbable, hein, Booba, avec Angèle Châtelier. Merci Angèle, avec ce message, restez chez vous en cette troisième semaine de confinement. Je vous donne un chiffre qui peut aussi nous aider à tenir. Ces mesures de restriction auraient déjà sauvé 2500 vies en France en deux semaines, 59 000 à l'échelle européenne. C'est ce qu'ont calculé des chercheurs britanniques qui ont modélisé toute cette épidémie. Une étude que le ministère de la Santé juge intéressante. Voilà, 2500 ouais. vies sauvées en France, en restant chez nous.
Voilà, alors continuez de rester chez vous, continuez d'écouter Europe 1. Sébastien, on vous retrouve à 18h30. Un peu d'optimisme aussi peut-être dans le ciel du côté du temps, Anissa ?
Oui, de bonnes nouvelles, effectivement, avec toujours du très beau temps dans le nord, Nathalie, puisque demain, nous n'aurons aucun nuage, pas de vent, juste du soleil dans un ciel très dégagé. Alors, au lever du jour, sur la Charente-Maritime, le Massif central, le Vaucluse et la Drôme, il va falloir être très prudent si vous êtes obligé de sortir, puisque la journée commence avec des brumes et des brouillards qui vont très vite se dissiper. Sur le quart sud-ouest et les Alpes du Sud, le ciel est couvert demain, avec d'ailleurs sur le Roussillon des averses dans l'après-midi. Dans le sud, au bord de la Méditerranée, le vent d'est souffle et le vent d'OTAN se renforce, lui, avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Il fait toujours très froid le matin, malgré ce soleil qui brille, avec des gelées matinales, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Reims et Nevers, moins 1 à Valence, 3 et Rouen, 1 degré pour Paris seulement, 3 à Bastia et Dunkerque, 6 à Marseille, 10 à Perpignan pour le matin. Et puis dans l'après-midi, ça remonte un petit peu, 10 à 13 sur la moitié nord sous le soleil, 14 à 17 sur la moitié sud et jusqu'à 18 degrés, c'est là qu'il fera le meilleur dans le sud-ouest.
Europe 1.
Dans un instant, dans votre grand journal du soir, votre invitée, Nathalie Lévy.
Oui, 10 000 respirateurs d'ici la mi-mai pour les hôpitaux, c'est l'annonce du jour signée Emmanuel Macron. Ils seront fabriqués par un consortium d'industriels, parmi lesquels le constructeur PSA. Yann Vincent, son directeur industriel, répond à mes questions dans deux minutes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 qui reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Quatre grands groupes industriels vont fabriquer d'ici la mi-mai 10 000 respirateurs pour aider les hôpitaux, notamment Air Liquide, Schneider Electric, Valeo et le constructeur automobile PSA. Nathalie Lévy en ligne avec vous ce soir. Yann Vincent, le directeur industriel de PSA.
Bonsoir Yann Vincent.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous répondre ce soir sur Europe 1. Vous allez donc aider Air Liquide, le plus gros fabricant de respirateurs français, à augmenter ses capacités de production. Pourquoi vous, PSA, et quelle est votre expertise ?
Écoutez, il y a quelques jours, nous nous sommes posé la question de savoir comment on pouvait aider. Et donc, de manière très simple, nous nous sommes tournés vers ce fournisseur de respirateurs artificiels. Nous ne connaissons absolument pas le produit, nous ne le connaissions absolument pas. Nous avons donc été voir chez eux ce dont il s'agissait pour simplement identifier ce que l'on pouvait éventuellement faire. En y allant, on a identifié que l'on pouvait faire un certain nombre de choses pour aider à cette production, pour aider à augmenter de manière très significative les capacités de production d'Air Liquide.
avec une livraison, on l'espère, d'ici la mi-mai pour ces 10 000 respirateurs. Alors justement, parce que vous le dites de manière très honnête, il n'y avait pas de compétences particulières. Vous avez les moyens techniques sur place? Comment vous allez faire pour former vos salariés? Comment ça va se passer concrètement?
Alors en fait, on va installer, on a commencé d'ailleurs à l'installer, un atelier dans notre usine de Poissy, où nous allons installer le process de fabrication de ce qui est le point bouchon de la fabrication de ces respirateurs, donc un bloc mécanique. Ce process, il va être qualifié, certifié par Air Liquide, et puis en même temps, on va envoyer nos salariés qui sont volontaires pour travailler dans cet atelier, chez Air Liquide, cette semaine, pour qu'ils se forment. Et tout ça devant conduire à ce qu'à partir de la semaine prochaine, nous soyons en capacité de produire ces blocs mécaniques, les livrer à Air Liquide, qui en fera des respirateurs, et qui donc va pouvoir augmenter très sensiblement sa capacité de production.
Donc PSA, précisément, combien à peu près évaluez-vous le nombre de respirateurs que vous pourrez vous produire chez vous à Poissy?
Écoutez, on doit pouvoir monter jusqu'à 300 par jour, donc 300 jour. Blocs mécaniques par jour. Et puis par ailleurs, nous allons aussi aider Air Liquide en leur mettant à disposition du personnel dans leur usine d'assemblage d'Antony pour qu'ils puissent augmenter leur capacité de production.
Alors parlons justement de vos salariés. Vous nous dites qu'ils sont volontaires. Combien ont répondu présent?
Alors,
en pourcentage, en tout cas.
On est en train de chercher ça. Hein. Donc il va falloir à peu près avoir une cinquantaine de salariés sur le site de Poissy qui vont travailler dans des conditions de sécurité qui sont parfaitement renforcées, qui permettent de protéger leur santé. Et on va en avoir une cinquantaine dans le site d'Air Liquide à Antony, qui viendront de notre centre de recherche et de développement de VSI.
D'accord. Du coup, cette cinquantaine...
Oui, 50 et 50. Et on n'a aucun doute sur le fait que nous allons les trouver, parce que c'est évidemment une cause noble.
Oui, bien entendu. Sauf qu'il y a aussi, j'imagine, les syndicats qui vous rappellent à l'ordre sur la reprise de l'activité avant la fin du pic épidémique. Vous nous l'avez dit, tout l'aspect sécurité sera mis en place, les masques, les gants, etc. En termes de salaire, en termes de primes, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Qu'est-ce qui est prévu?
En fait, on a installé dans chacune de nos usines... on a mis en place des mesures de sécurité extrêmement, extrêmement renforcées qui permettent de garantir à chacun qu'il sera protégé. Alors c'est nécessaire pour tout de suite fabriquer des respirateurs ou des composants de respirateurs. Ce sera nécessaire de la même manière le jour où nous redémarrerons la production de véhicules électriques. Et de véhicules. Et donc nous avons évidemment une discussion avec les syndicats sur le sérieux de ces mesures et avant que cet atelier qui va fabriquer des respirateurs commence à fonctionner, eh bien nos syndicats viendront avec nous dans l'atelier en question pour s'assurer que tout ce qui a été mis en place est effectivement
d'accord. Donc sur les mesures de sécurité, on a bien entendu, je vous repose la question, les salariés sont-ils payés ou volontaires veut dire qu'ils ne sont pas rémunérés?
Ils sont payés normalement, effectivement. Ils sont payés normalement. Mais ils viennent au volontariat, c'est-à-dire que nous n'imposons pas qu'un salarié vienne travailler dans cet atelier. Nous appelons au volontariat parce que nous avons conscience du fait qu'il peut y avoir de l'inquiétude. C'est donc la base du volontariat.
D'accord, c'est la base du volontariat. Vous savez bien qu'il y a des primes qui sont mises en place dans un certain nombre de secteurs désormais réclamés par le gouvernement pour des salariés qui sont sur des territoires et des domaines compliqués. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé chez vous dans la mesure où...
Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Nous pensons très sincèrement que c'est une aide pour le pays dont le pays a besoin. Nous sommes convaincus que nous allons avoir une centaine d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens qui vont avoir envie d'aider dans les conditions de sécurité que nous avons définies.
Alors vous nous avez dit 300 respirateurs par jour produits à Poissy, hein, on est d'accord?
300 composants
à peu près.
Oui, voilà.
Voilà, ça veut dire 300 par jour qui sortent directement de l'usine de Poissy?
Bah, C'est-à-dire qu'en fait, hein, c'est une part significative du respirateur, donc que nous allons produire pour Air Liquide, nous le donnons à Air Liquide, et Air Liquide met dans un respirateur complet, parce qu'il y a évidemment un certain nombre d'exigences de sécurité. Ils doivent tester le produit avant de le donner, aux hôpitaux.
Pensez-vous que les besoins nationaux seront couverts avec cette double production, si j'ose dire ?
Honnêtement, je ne sais pas. Ce que l'on constate, c'est que malheureusement, la demande a explosé par rapport à ce qu'étaient les capacités il y a encore quelques mois. Quoi. Et donc, ce que l'on essaye de faire, c'est tout simplement d'aider Air Liquide à faire grimper cette capacité de production pour coller avec la demande. Qu'est-ce qu'elle sera, la demande ? Je vous avoue, j'en sais rien.
Vous avez d'autres sites de fabrication, notamment en Angleterre. Est-ce que vous avez reçu d'autres demandes en ce sens, localement ?
Bah, écoutez, le gouvernement britannique s'est tourné vers l'ensemble de l'industrie en demandant à cette industrie qu'est-ce que vous pouvez faire. Et donc, évidemment, le mode de travail que nous avons trouvé en France, si on peut l'avoir de la même manière en Angleterre, nous le ferons de la même manière.
D'accord. Ces pièces, donc, ces morceaux, ces monteurs de la pièce centrale, hein, parce que c'est ça donc, que vous allez fabriquer à Poissy, pour être exact. Hein, les monteurs de cette pièce centrale, ils sont évidemment aujourd'hui indispensables. Les salariés, vous nous l'avez dit, volontaires. Je voudrais d'un mot faire un point sur un autre aspect un peu décalé, mais important quand même dans ces circonstances. Vous avez fait le choix chez PSA du chômage partiel, là, depuis les 15 jours de confinement que nous vivons.
Oui, absolument. Nos usines sont arrêtées. Beaucoup d'activités est arrêtée, oui.
Donc pas de dividendes à vos actionnaires cette année, comme le préconise Bruno Le Maire ?
Écoutez, nous verrons cette question. C'est pas l'objet aujourd'hui. Quoi.
C'est en réflexion ? C'est à l'étude ?
Écoutez, c'est une question que nous traiterons évidemment en temps opportun. Honnêtement, aujourd'hui, notre sujet, il est de faire en sorte qu'on se sorte et qu'on aide à sortir le pays le plus rapidement possible de cette crise. Franchement, c'est ça mon questionnement. Hein. C'est pas de savoir s'il faut payer ou pas payer les dividendes. Hein. Honnêtement, c'est pas ça mon sujet.
Vos usines en Chine, parce qu'on voit qu'à Wuhan, on commence un petit peu à ressortir. Est-ce que vous avez déjà une idée des dates de réouverture ?
Elles ont commencé à reproduire.
Précisément à Wuhan ?
Oui, tout à fait, oui.
Depuis quand ?
Depuis très peu de jours. Hein, j'ai plus en tête la date précise, mais c'est fin de la semaine dernière, début.
D'accord, donc à Wuhan, on a recommencé une activité légère, mais en tout cas, ça a plutôt repris depuis quelques jours. Juste un dernier mot, on a donc 300 monteurs de pièces centrales produits par jour à Poissy chez vous, et donc vous nous garantissez, ou en tout cas, vous êtes ce soir sur la date de la mi-mai, c'est ce qui est avancé en tout cas pour ces 10 000 respirateurs avec les 4 grands groupes industriels.
Écoutez, vous savez, on met toute notre énergie, tout notre cœur sur ce sujet. Et c'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas de doute quant au fait qu'on va trouver des volontaires, simplement parce que tout le monde comprend que c'est un sujet d'aide au pays, et donc on fait notre maximum. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas vous le dire autrement.
Merci beaucoup. Écoutez, merci infiniment de nous avoir éclairé ce soir sur Europe 1, sur cette initiative et ces volontaires donc, qui vont répondre présents dans cette usine PSA Poissy. Merci beaucoup Yann Vincent, directeur industriel de PSA. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec au programme Nathalie Lévy.
Emmanuel Macron et le patriotisme économique, les aides aux entreprises, la semaine de tous les dangers dans les hôpitaux d'Île-de-France. On a besoin de décortiquer cette actu du jour bien dense encore avec les grandes voix. Ça commence dans un instant.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Tous ceux qui cherchent à faire des procès sont irresponsables. La petite phrase d'Emmanuel Macron, ceux qui critiquent sa gestion de la crise. Le président en visite dans une usine de masques aujourd'hui. Il annonce une dotation de 4 milliards d'euros pour fabriquer en France ses protections, mais aussi des respirateurs. Les hôpitaux d'Île-de-France, très proches de la saturation, 38 patients seront transférés demain par un nouveau TGV médicalisé.
Decathlon retire de la vente ses masques de plongée pour les offrir aux hôpitaux. Oui, ils peuvent protéger les soignants, vous explique dans le journal de 19h. L'aéroport d'Orly va se mettre en sommeil. Dernier vol commercial ce soir. Ensuite, fermeture pour une durée indéterminée. Les voyagistes français annoncent reporter tous les départs prévus désormais jusqu'au 15 mai. Dans le reste de l'actualité, le procès aux assises des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et à l'Hypercacher débutera finalement le 2 septembre, reporté en raison de la crise sanitaire. L'ancien sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, a été inhumé aujourd'hui, habillé d'un survêtement de l'Olympique de Marseille, club dont il fut le directeur sportif. Une banderole « Merci Hidalgo » a été accrochée devant le stade Vélodrome. Et puis la mort de Pierre Bénichoux, journaliste, ancien dirigeant du Nouvel Obs et chroniqueur ici à Europe 1 dans la bande de Laurent Ruquier. Pendant des années, il est mort à 82 ans dans son sommeil et cela n'est pas lié au coronavirus.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h bien sûr. Anissa, un soleil qui va briller demain.
Oui, effectivement, le soleil va briller sur quasiment tout le pays demain. Et pour une fois, nous n'aurons ni nuages ni vent. Voilà, c'est vraiment le soleil qui sera l'unique patron sur presque toute la France. Et le presque est très important parce que dans le sud-est, demain, nous aurons encore quelques nuages, notamment sur la Côte d'Azur, des nuages qui pourront vous apporter quelques petites gouttes sur les Alpes du Sud, des nuages également sur le sud-ouest, sur les Landes, l'Occitanie, les Pyrénées. Le ciel sera un petit peu plus gris dans ces secteurs. Et puis attention, sur le Languedoc, c'est le vent d'OTAN qui se lève et qui souffle fort demain jusqu'à 90 km/h. Les températures encore très fraîches le matin, moins 4 à 10 degrés de Montluçon à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, ce sont quasiment les mêmes températures pour chaque ville, les mêmes températures qu'aujourd'hui, 11 à 18 degrés en moyenne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. C'est l'heure de prendre du recul avec les journalistes d'Europe 1 qui nous éclairent. Ce soir autour de vous à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1 et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Vous pouvez bien sûr participer vous aussi au débat. Ça se passe au 39-21 pour venir nous rejoindre. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur et puis sur Twitter pour réagir avec le hashtag Radio ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Ils
à tous.
Sont présents, les voilà en écho, Mickaël Darmon, Emmanuel Duteil, Ève Roger. Alors, vous avez du boulot aujourd'hui, Emmanuel, j'allais dire Emmanuel Macron, Emmanuel Duteil et Mickaël Darmon, bien sûr. Le chef de l'État a parlé en marge de sa visite de l'usine de masques. Il est dans le Maine-et-Loire et Emmanuel Macron a dit beaucoup de choses, notamment vive le Made in France, le virage souverainiste du président de la République, l'effort de guerre, dit-il, ce mot d'ordre, souveraineté. Alors, Mickaël Darmon et Emmanuel Duteil pour l'analyse économique. Mickaël Darmon, bien sûr, dans les temps de crise que nous vivons, il fallait s'y attendre. Et ça fait beaucoup réagir dans l'opposition.
Oui, bien sûr, parce que l'opposition a parfaitement compris le sens, d'abord dans son rôle, et puis a parfaitement compris le sens du message. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme à son habitude depuis le début de la crise, pose déjà les jalons de l'après, et cette fois-ci, il a fait un pas supplémentaire, puisqu'il a posé les deux piliers du projet politique de ce qu'il appelle maintenant le jour d'après, c'est-à-dire souveraineté, solidarité. Et de ce point de vue-là, il tente de, d'abord, il répond, bien sûr, on va en reparler, aux critiques qui sont faites, tout en les repoussant, mais enfin, il y répond, et il accélère le tempo, parce qu'en réalité, ça ne devait pas arriver à ce rythme-là, mais l'importance, la virulence des critiques l'amène à bousculer un petit peu son intention, et d'ores et déjà, il place le programme de la sortie, le projet politique de la sortie de la crise, c'est-à-dire tout simplement, au fond, un retour à une peut-être un vieux monde, le retour de en force de l'État, c'est-à-dire le libéral devient colbertiste 2.0, il ramène effectivement ce projet-là pour verrouiller à la fois à droite, à gauche, parce que ce sont des notions qu'on entend tant à droite de l'échiquier politique qu'à gauche de l'échiquier politique, et il envoie le message d'ores et déjà, il faudra compter avec lui à la sortie de cette crise, bien sûr.
Alors, il faudra renationaliser, il faudra produire en France, il faudra tout cela. C'est bien joli, Emmanuel Duteil, mais comment on fait ?
c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que bien évidemment qu'on va pouvoir reproduire à la marge. Alors, il y a des exemples qui vont être extrêmement symboliques, l'exemple des médicaments. Là, c'est certain qu'on s'est rendu compte qu'à l'aube de cette crise, qu'on avait laissé trop de choses à la main, notamment de la Chine, puisque 80% de ce qui permet de fabriquer un médicament provenait plus ou moins de Chine. Donc là, oui. C'est certain que sur ces choses-là, il y avoir des relocalisations. Mais refabriquer des masques en France, refabriquer du gel hydroalcoolique, refabriquer des respirateurs en France, malheureusement, une fois que cette crise sera passée, ce sera bien trop tard. On n'en aura plus besoin dans la même mesure. Refabriquer plus de voitures en France, au moment où la crise va être gigantesque, où l'automobile est mise complètement à genoux. Donc, bien évidemment que non, on ne va pas relocaliser en masse. Et ce serait dans tous les cas totalement impossible, puisque beaucoup, par exemple, si on suit l'exemple de l'automobile, si beaucoup de nos constructeurs produisent en Chine, c'est pour le marché chinois. Airbus qui a une usine en Chine, on va pas rapatrier l'usine pour les avions qui sont vendus en Chine. Donc malgré tout, aujourd'hui, la France est inscrite dans un mouvement de mondialisation contre lequel il sera très compliqué de lutter. On va avoir des symboles, c'est certain, parce que là, je ne veux pas empiéter sur le sujet de Mickaël, il connaît ça mille fois plus que moi, mais la politique est faite de symboles. Donc on va avoir des relocalisations, des entreprises qui vont vouloir être gentilles et qui vont montrer l'exemple. Et on reconsommera peut-être, nous, Français, de façon très différente. Inévitablement, on va réapprendre à sûrement encore plus aller vers nos producteurs locaux et tout genre de choses. Mais pour ce qui
en
compose...
En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est de la communication liée aux circonstances.
Il
n'y
a pas que de la communication. Je pense qu'il y a une vraie volonté.
Oui,
mais... Il y a une vraie volonté, mais qui va se heurter à la réalité.
C'est ça. Alors, on va entendre Francis de Nancy là-dessus. Bonsoir Francis, bienvenue au 3921 sur Europe 1. Francis,
bonsoir à tous.
Ce tournant souverainiste d'Emmanuel Macron, vive le Made in France. Évidemment, dans les circonstances actuelles, cela s'impose. Après, dans la réalité, vous avez entendu Emmanuel Dutheil, ça va être une autre paire de manches.
Bah écoutez, tout vient d'être dit, on est dans de la communication politique, on est dans de la communication de crise. Je suis sûr que si on étudiait les discours de Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale, on trouvait des tas de trucs drôlement bien expliqués en temps de crise. Et Emmanuel Macron est dans le baratin politique habituel. Enfin, c'est un. J'espère que quand même les gens ont compris que depuis 3 ans, c'est quelqu'un qui baratine, c'est quelqu'un qui blablate et c'est quelqu'un qui raconte ce que les gens ont envie d'entendre. Prenez l'exemple de l'hôpital. Il est en train de découvrir que notre système hospitalier manque cruellement de moyens. Il nous dit que quand on sortira de la crise, on va changer tout ça. Mais reculer simplement de quelques semaines, combien de temps de discours, de discussions y a-t-il fallu pour récupérer une dette cumulée 800 millions d'euros pour les hôpitaux français? On est dans le ridicule le plus total. Enfin, on est incapable de prévenir une crise sanitaire. La seule crise qu'on sache prévenir, on l'a déjà vu en 2008, c'est la crise financière. On fait tourner les planches à billets, okay. Ça c'est facile. Mais quand il faut s'occuper d'une population, là il n'y a plus personne, et je ne crois pas du tout au baratin, à la relocalisation, au souverainisme, aux taxes douanières, etc. etc. Enfin, tout ça, alors, c'est ce qui fait plaisir aux gens actuellement, mais ça ne changera rien.
Ouais. Vous avez comparé le chef de l'État à Pétain après-guerre. On est dans le bout du bout. Vous n'y croyez pas une seule seconde. On l'a bien compris. Vous mettez complètement en doute la parole d'Emmanuel Macron. Il y a de l'intention quand même. Vous l'avez entendu. Emmanuel Dutheil le disait. Mickaël Darmon, encore un mot là-dessus. Et je voudrais donner la parole à Ève Roger. Rebâtir notre souveraineté, c'est nationale et européenne. Quand Emmanuel Macron exhorte, bien sûr qu'il y a une part de communication, mais bien sûr qu'il y a une part de nécessité absolue. Et pas qu'un simple changement de ton.
Non, il y a bien entendu la volonté pour lui de tout simplement de sauver son quinquennat, d'une part. Deuxièmement, on a bien compris que ça va être difficile, à l'instant même, on vient de l'entendre, de pouvoir convaincre. Il faut s'en souvenir comment, il y a quelques années, il expliquait qu'on ne pouvait pas faire un avion sans composants venant du monde entier. Ça, c'est une chose. Et puis, s'il y a une allusion, une référence politique aussi à faire, en tout cas, il a eu dans sa bouche aujourd'hui, il a parlé de la France unie. La France unie, c'était le slogan de François Mitterrand en 1988. Donc, on voit bien qu'il y a un positionnement politique, parce que à la sortie de cette crise, eh bien, c'est tout simplement la capacité de Emmanuel Macron à sauver sa peau politique.
Ouais. Évidemment, mais Macron enchantre du Made in France. Vous avez entendu notre auditeur, hein, Francis, qui n'est pas allé de main morte,
difficile
et de toute
à
façon très difficile à convaincre.
Mais la nécessité aussi.
Mais en tout cas, voilà. Ève Roger, je viens vers vous désormais. Bonsoir à vous, Ève. On est dans quelle situation à l'heure qu'il est en Ile-de-France. On essaye de faire le point chaque jour ou quasiment avec vous. Où sommes-nous aujourd'hui ?
Eh bien, je peux vous dire que là, la situation est quand même assez difficile, puisqu'il y a maintenant 2037 patients en réanimation pour 2000 lits de réanimation, donc il y en a un peu plus. Mais alors, aujourd'hui, le directeur général de la PHP disait on n'est pas encore complètement saturé. Il y a une forme de sérénité, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, une espèce de sérénité au moment de la crise, c'est-à-dire tout le monde est à son poste, tout le monde c'est la guerre, quoi. Et donc là, vraiment, il y avait 200 patients en réanimation début mars, aujourd'hui on est à 2037, c'est x10, quoi. Et on a le sentiment vraiment que tout le monde est très concentré, tous les personnels sont à leur poste, et donc ils misent sur deux choses. Donc il y a d'abord ces transferts qui peuvent paraître ridicules, 38 patients demain qui partent en TGV médicalisés, ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est très important, le turnover dans les lits de réanimation. Et puis la deuxième chose sur laquelle on compte, parce qu'il y a des gens évidemment qui sortent de réanimation, il y a aussi des gens qui guérissent quand même, et puis la deuxième chose, c'est qu'on l'a dit, on est vraiment à 15 jours jour pour jour de début du confinement, et qu'en réalité les patients qui sont aujourd'hui dans les lits en Ile-de-France, c'est ceux qui ont été contaminés avant. Donc on peut espérer, et je crois que tout le monde croise les doigts, parce qu'on est encore dans l'incertitude, comme je vous dis depuis le début, que petit à petit le nombre de l'afflux des patients va non pas diminuer, mais que l'augmentation sera de moins en moins forte. Donc là, on est vraiment sur la ligne de crête là, en Ile-de-France.
Alors on va regarder tout ça de près avec vous, les grandes voies. On va se retrouver dans un instant, on va revenir aussi sur la prime annoncée la semaine dernière à peu près par Bruno Le Maire, qui était à 1000 euros, qui va peut-être passer à 2000 euros, on va en reparler dans un instant. Le plan pour les respirateurs aussi, ils seront normalement accessibles d'ici la mi-mai. On y revient dans un instant avec vous trois, les grandes voies, tout de suite.
h45 sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous et à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, responsable du service économie à Europe 1, chef, patron, président.
Moment, exactement.
Et puis toutes vos réactions évidemment en direct au 39-21 et sur Twitter, on vous lit avec le hashtag Radio Ouverte.
Oui, Emmanuel Duteil, justement, président, c'est vers vous que je me tourne là pour démarrer cette deuxième partie des grandes voix. La prime de 1000 euros accordée aux salariés pourrait être doublée, c'est ça ? C'est Bruno Le Maire qui l'a dit, si j'ai tout compris.
Eh ben, vu que je suis le président ce soir, je vous la double, Nathalie. Effectivement, jusque-là, il y avait la prime qui avait été donnée par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes, qu'on avait appelée la prime Macron, qui était une prime de 1000 euros, défiscalisée et désocialisée, c'est-à-dire que ça coûtait rien aux collaborateurs et ça coûtait rien à l'entreprise. Cette prime avait été reconduite, sauf qu'il y avait eu des conditions qui avaient été mises à cette prime. Il fallait que, notamment dans les petites entreprises, il y a ce qu'on appelle un accord d'intéressement, c'est-à-dire que les salariés sont un peu intéressés aux résultats de l'entreprise. Il y a déjà quelques jours, Bruno Le Maire avait fait sauter cette clause en disant « Allez, c'est la crise, on va pas s'amuser à mettre là un accord d'intéressement, on vous donne la possibilité de donner cette prime de 1000 euros ». Là, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est un signal quand même très très fort pour les entreprises qui auront le moyen de le faire, c'est que cette prime va pouvoir être doublée. Ça veut dire quoi ? Ça peut pouvoir arriver à 2000 euros, et les entreprises ont jusqu'au 31 août pour la donner. Elle est également défiscalisée et désocialisée. Et par exemple, toute la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Casino et autres, qui ont déjà donné des primes à ses collaborateurs, on le dira jamais assez, qui ont quand même le courage d'aller chaque jour travailler pour qu'on puisse s'alimenter, eh bien, s'ils ont déjà eu les 1000 euros, le gouvernement dit « c'est pas grave, vous pouvez redonner 1000 euros encore pour arriver donc à la somme de 2000 euros ». Et un point très important, c'est-à-dire que même ceux qui sont au chômage partiel, les entreprises ont le droit, et c'est une nouveauté des annonces du jour de Bruno Le Maire, les entreprises ont le droit d'accorder cette prime, et là c'est tout bête, mais ça permet de venir compenser un petit peu le manque à gagner.
Le manque à gagner, et je crois que pour le télétravail c'est pareil, hein, Emmanuel, normalement, en tout cas, ceux qui se déplacent ou ceux qui sont en télétravail, le ministre a dit, c'est les entreprises qui décident, hein. Je ne fais pas d'hierarchie, moi.
Exactement, les entreprises peuvent accorder à tous leurs collaborateurs. Ouais. À la base, c'était une prime qui avait été décidée pour mieux redistribuer l'argent des entreprises. Là, c'est une prime qui va effectivement soulager les collaborateurs qui vont chaque jour travailler pour les féliciter. Là, on est vraiment dans de la récompense parce que il faut y aller tous les jours, prendre les transports en commun en ce moment. Quand vous entendez à la télévision tous les jours, surtout, vous ne sortez pas et hop là, même si vous allez balader le chien, vous mettez un masque parce que vous risquez de tomber malade. Bon, faut du cran chaque jour pour aller à l'hôpital, pour aller vendre des produits dans les supermarchés, etc., etc. Donc, on est sur du symbole. Mais bon, mine de rien, ceux qui vont toucher 2000 euros, c'est quand même un smic et demi que vous allez récupérer comme ça. Donc,
Ève Roger, on se parle des tests, évidemment, parce que on voit bien que de toutes parts, à travers le monde, il faut les trouver, il faut pouvoir les produire, et ça en nombre. Et on est comment dans cette course? On y arrive ou on a l'impression de se battre contre des moulins à vent?
Alors, moi, il me semble qu'on va y arriver. On va y arriver parce qu'il y a tellement de monde, à travers tellement de laboratoires, tellement de CHU en France, de chercheurs. Mais c'est incroyable. Ça pullule dans tous les sens. Après, il y a des tests de bonne qualité, puis des tests de beaucoup moins bonne qualité. Aujourd'hui, j'avais au téléphone une responsable à Strasbourg qui était en train de valider des tests. Elle me dit, je reçois plein de kits qui arrivent de Chine. Et moi, mon travail, c'est de tous les valider pour voir s'ils sont efficaces. Enfin, c'est des termes techniques, mais elle dit, il y en a qui sont, on ne sait pas trop, ils donnent trop de faux positifs, trop de faux négatifs. Donc sa journée, elle passe sa journée à valider les tests pour savoir lesquels seront les meilleurs. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à un membre du conseil scientifique, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Il m'a dit oui, on va y arriver. Ouais. Le problème, c'est vraiment quand il va falloir en fabriquer des millions, mais c'est pour dans 15 jours, c'est pour dans 3 semaines. Quoi. Ouais. Il va falloir en fabriquer. Mais visiblement, là aussi, on va peut-être manquer aussi de réactifs comme on en manque aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les tests qui existent aujourd'hui, on manque de produits. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, les réactifs, ils sont où? Et ils sont toujours en Chine, partout.
En Chine, oui.
Donc, mais on devrait pouvoir y arriver. Et puis l'idée, c'est de vraiment marcher sur les deux jambes, de sortir du confinement avec d'un côté, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète, d'un côté les tests qui disent oui, j'ai le virus, non, je ne l'ai pas quand on a des symptômes. C'est ce qu'on appelle les tests PCR. Et puis de l'autre côté, le test de sérologie qui est de dire oui, j'ai croisé ou non le virus, peut-être même sans m'en rendre compte. Et ce test-là va être primordial parce que c'est grâce à ce test-là qu'on va savoir si on peut sortir et si on peut reprendre l'activité à la sortie du confinement.
C'est ça, le déconfinement qui passera obligatoirement par là de toute façon. Donc ces tests indispensables, on le sait bien sûr, comme les masques et comme les respirateurs dont on a parlé il y a quelques instants avec mon invité Yann Vincent et sur lequel je vais vous interroger encore dans une seconde. Un mot de nos ministres actuellement du gouvernement, Michaël Darmon. Vous avez des coulisses, des informations sur la manière dont on les tient entre guillemets sur ce qu'ils vont dire et pas dire, sur ce qu'ils ont droit, sur les terrains sur lesquels ils peuvent communiquer sans faire de bourde, on se souvient de la semaine dernière.
Effectivement, alors c'est même quasiment un confinement en termes de communication qui a été décrété. C'était lors d'une réunion hier soir en visioconférence à partir de Matignon et avec l'ensemble des communicants du gouvernement. Et alors là, je veux dire que la liste vraiment des consignes a été absolument drastique. Il aura été ordonné que pour leur ministre maintenant, il y ait une autorisation express de Matignon avant de pouvoir passer dans les médias, ce qui est absolument nouveau, une forme d'attestation de déplacement médiatique en quelque sorte. Donc ils doivent dire effectivement, obtenir d'abord le feu vert de Matignon. Il leur est recommandé de privilégier la presse écrite parce que les interviews sont relues et corrigées à la différence évidemment des plateaux radio, des studios radio, des plateaux télévision. On leur demande d'adopter quand ils sont dans les médias un ton grave. Il faut arrêter de faire de l'humour, ça c'est certainement pour faire allusion aux échanges un peu légers et un peu batifolants sur les boucles Telegram
sur le net
avec certains
à des heures indues par exemple
ou évoquant des heures indues et il a été donc précisé à ce moment-là que chaque bourde serait comptée triple, pour vous dire à quel point effectivement c'est compliqué. Bref, on a bien compris que tous ces avertissements qui ont été donnés de manière extrêmement drastique, visent aussi à gérer une urgence aussi
puissante que quelque part, bien sûr, sur le plan politique, les masques ou les problèmes matériels. C'est-à-dire que les mauvais sondages vis-à-vis du gouvernement inquiètent en permanence. Et là, depuis la semaine dernière, le grand nettoyage a été décrété. Et hier soir, il a été dûment notifié à l'équipe gouvernementale qui est maintenant confinée pour essayer d'éviter l'épidémie des couacs.
Oui, c'est ça. En même temps, cela s'impose compte tenu effectivement des circonstances. Donc, parole relue dans la presse et contrôlée, vous l'avez dit, Michaël Darmon. Emmanuel Dutheil, pendant ce temps, sur le terrain, on s'active pour les tests, on s'active pour les masques, on s'active aussi pour les respirateurs. J'interrogeais tout à l'heure Yann Vincent, directeur industriel de PSA, des respirateurs qui sont attendus pour la mi-mai. Et en fait, on va s'entraider entre fabricants et entre différentes capacités, différentes usines de production, hein, même celles qui n'ont rien à voir normalement avec l'engin.
Oui, effectivement. Alors, on voit qu'il en manque partout. Tout à l'heure, à la conférence de rédaction, sans trahir de secret, Eve Roger nous disait, vous voyez, quel que soit le pays, même les États-Unis manquent de tout aujourd'hui. Donc, bien malin celui qui aurait peut-être pu prédire qu'il en fallait autant. Mais là, force est de constater qu'il nous en manque énormément. On va en produire donc 10 000. Alors, il y avait quand même un groupe industriel français qui était déjà en pointe sur ce genre de technique. C'est Air Liquide. C'est un groupe qu'on connaît pas très bien, mais c'est l'un des géants, notamment de l'hydrogène. Enfin, bon, ceux qui jouent en bourse les connaissent parce que c'est toujours la valeur qui est recommandée à avoir en fond de portefeuille. Mais au-delà de ça, donc, c'est eux qui vont emmener un peu tout le monde. Et derrière, on a les grands noms de notre industrie qui viennent. On a PSA, donc Peugeot, Citroën, qui vont également venir prêter main forte. On a Valeo, qui est l'un des plus gros équipementiers automobiles au monde, qui est l'entreprise qui dépose le plus de brevets en France. Donc, vous voyez, c'est des gens qui savent faire de l'innovation, qui savent faire de l'industrie. Et un autre très, très grand groupe industriel français qui s'appelle Schneider, qui là aussi va venir apporter ses collaborateurs, ses compétences, ses moyens, ses usines, ses capital pour gagner cette bataille. Alors, on sait que toujours les calendriers qui sont donnés sur mi-mai, bon, pourvu qu'on y arrive et pourvu que ça n'arrive pas trop tard pour la suite, puisque une bonne partie de la vague sera potentiellement passée dans certaines régions. Donc, il faut vraiment là aller très très vite,
très
puisque
vite.
Eve dirait ça beaucoup mieux que moi, mais je crois que ça fait partie des outils indispensables pour permettre de sauver des gens.
Bien sûr. Eve Roger, justement, aux États-Unis, Emmanuel Dutheil le disait, ils en manquent aussi. Aux États-Unis, on est comment à l'heure qu'il est ? On sait que l'épidémie, elle s'accélère de manière considérable. La mobilisation générale est-elle véritablement au rendez-vous ?
Ce qui me frappe aux États-Unis quand je lis la presse, c'est que je vois il y a 3000 morts aujourd'hui, 160, ouais. Plus de 160 000 cas. 3000 morts, c'est-à-dire plus que le 11 septembre. Donc vous voyez, il y a quand même un parallèle qui est quand même étonnant. Mais ce qui me frappe surtout, c'est quand je lis la presse américaine, j'ai l'impression de lire la presse française. C'est-à-dire qu'on reproche au gouvernement, à tous, le retard à l'allumage, on reproche le manque de protection, on reproche le manque de tests, on reproche le manque de respirateurs artificiels, on s'inquiète pour les maisons de retraite. Donc au fond, on se rend compte que... je parle sous le contrôle d'Emmanuel, que la première puissance mondiale, alors je ne sais pas si c'est toujours la première, mais a exactement les mêmes difficultés que nous, les mêmes. Et alors que c'est un pays qui est censé de pouvoir répondre à toutes les demandes.
Ouais. Donc vous avez raison, on a vu des hôpitaux provisoires d'ailleurs érigés en plein Central Park. On a l'impression effectivement qu'on n'est pas aux
États-Unis. Les hôpitaux appellent au secours exactement comme partout en Italie, en France. Et ce que je trouve étonnant, enfin intéressant dans cette histoire de virus, de coronavirus, c'est que le coronavirus, il touche tout le monde à égalité. Tout le monde est touché, que ça soit un pays riche, un pays moins riche, des gens de toutes les classes sociales. Alors c'est vrai que c'est au moment de la prise en charge que l'inégalité se recrée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous avez accès plus ou moins au dépistage, que vous avez plus ou moins accès aux meilleurs services. Mais c'est quand même un virus qui ne fait pas de distinguo entre les pays, entre les dirigeants, entre les catégories sociales, quoi.
Et on sait que, évidemment, la santé n'est pas universelle sur place. Peut-être un mot là-dessus, Emmanuel Dutheil, puisque Eve Roger vous interpellez. On reste en France.
C'est vrai que du côté des États-Unis, c'est-à-dire que ça montre aussi à quel point le système de santé américain est sûrement l'un des plus inégalitaires au monde. C'est-à-dire que vous avez objectivement les meilleurs hôpitaux au monde pour ceux qui ont la chance de pouvoir le payer ou qui ont ce qu'on appelle des bénéfices, c'est-à-dire avec leur salaire, une bonne assurance santé. Faut voir qu'une consultation de simple généraliste aux États-Unis, en tout cas à New York, dans les bons quartiers, vous en avez pour au minimum 150 à $200. Donc vous imaginez, là, pour les gens qui n'ont n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de bonne assurance, ils vont inévitablement reculer. Et ça, ça va être un très 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 gros problème pour les Américains. C'est-à-dire qu'on sait que l'épidémie s'est développée aussi parce que sûrement que les pouvoirs publics n'ont pas pris conscience de ce qui était en train d'arriver. Ils se croyaient plus forts, ils avaient fermé les vols Air France, ils croyaient que ça leur suffisait. Mais il y a aussi un vrai problème d'aller toucher tous les Américains, puisque nous, on a beau voir que notre hôpital explose en ce moment, il n'en reste pas moins qu'on a un système hospitalier qui tient, qui fonctionne et qui est universel dans la mesure du possible, qui puisse être universel.
Ouais, c'est ça, les États-Unis donc frappés en plein cœur, même si le pays s'est recroquevillé, on voit bien qu'ils n'ont pas plus de réponses que les autres. Merci Manuel Dutheil. Un mot encore pour conclure avec vous, Mickaël Darmon, rapidement, sur l'importance finalement des territoires, là, dans cette guerre contre le Covid, la gestion de la crise qui met vraiment les régions en avant.
Oui, c'est un des effets de cette crise, c'est que les présidents de région, avec leurs puissants moyens financiers, sont aujourd'hui porteurs d'initiatives. On l'a vu hein, dans les différentes régions, en Ile-de-France, la gratuité du pass Navigo, dans d'autres régions, notamment dans le Nord, financer les entreprises qui vont faire des masques. Bref, ce sont les présidents de région qui retrouvent ou qui trouvent, peut-être pour la première fois, une dimension politique inédite. Et les maires également sont très présents et très actifs, avec notamment les élaborations, comme on le voit beaucoup autour de Marseille en ce moment, par des initiatives municipales, des centres de Covid, des Covid centers, comme ils disent, ou tout simplement pour décharger la médecine de ville, on réquisitionne des salles municipales pour faire le premier accueil de ceux qui pourraient avoir les symptômes, de manière à pouvoir déjà faire le filtre et alléger les structures médicales en ce moment surchargées. Donc on voit bien que les élus locaux
se remontent les manches comme jamais.
Voilà, et c'est évidemment pas loin de la politique, puisque tous les présidents de région sont à droite, et bien évidemment ça instruira également la situation post-crise.
Bah évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise. Merci beaucoup les grandes voix, Mickaël Darmon, Ève Roger, Emmanuel Dutheil, merci beaucoup à tous les trois. À demain, belle soirée à vous. On va nous poursuivre évidemment dans un petit instant après les grandes voix, c'est comme chaque soir à 19h. Le journal de Sébastien Krebs. D'abord le programme, je vous le livre, de la nouvelle heure. L'interview d'Aurélie Herbemont qui reçoit ce soir l'économiste Philippe Aguillon. Souveraineté nationale, est-ce un changement de cap politique pour le président? Le rendez-vous a pris à 19h10 et à distance. À 19h30, des expériences de confinement un peu particulières. Ils sont alpinistes, explorateurs, astronautes, spéléologues. Ils ont vécu le confinement. Ils vont nous livrer leurs ressentis, mais aussi leurs conseils. Tant qu'à faire, ça c'est à 19h30, un rendez-vous à ne pas manquer.